Bonjour, bonjour Laurent. De retour de vacances, bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Alors on reprend nos émissions à l'écoute de l'Italie. Alors notre ami Serge n'est pas là, il est en voyage, il est en vacances avec un petit crochet aussi italien. Donc on va continuer avec nos invités puisque chaque émission ou presque on a des invités et on réinvite Dominique Molin qui est que tout le monde connaît, qui est connu à Couleur FM, qui est aussi, qui fait partie de notre association, et puis qui anime une nouvelle émission, je crois, sur Couleur
Oui,
FM.
qui s'appelle Au fil des arts.
Donc, le titre en soi veut dire que différents arts seront
Tout ce
abordés.
qui est création artistique, art de la scène, plastique, littéraire, etc., etc., sera
Soyez
évoqué.
OK. On aura un peu d'art aujourd'hui aussi à l'écoute de l'Italie sur Couleur FM. Donc bonjour à tous, j'espère que cet été vous a été favorable. Alors on commence toujours par l'actualité. Alors l'actualité la plus récente pour nous au moins en tant qu'association, ça a été le Forum des associations de Bourgoin-Jallieu. L'association ayant son siège à Bourgoin-Jallieu, bon, il y avait plusieurs forums du même type, notamment à l'île d'Abo. Je dois dire, moi, j'ai été surpris par la fréquentation générale de ce forum, importante, vraiment importante, et très satisfait de, on va être un petit peu chauvin, mais de la propre fréquentation qu'on a pu avoir sur notre stand. Ce qui prouve deux choses, à mon avis, c'est que, il y a toujours, ou il y a de nouveau, je ne sais pas comment l'exprimer, un attrait pour l'Italie, sa culture, voire sa langue, si on en croit le nombre de candidats au cours de langue. Et puis, bon, c'est aussi une petite reconnaissance sur la démarche associative en général. Et puis, bon, la nôtre, soyons un petit peu encore une fois chauvin en particulier. Mais il y a peut-être des questions à se poser sur ce monde présent ce jour-là. Parce que je crois que beaucoup de stands ont eu du monde. Et on parle de crise, on parle de morale un petit peu en berne de partout. Il semblerait que des conclusions peut-être hâtives, mais il semblerait que les gens ont besoin d'aller voir ce milieu associatif sur qui finalement beaucoup compte.
D'aller voir ce milieu associatif et sans vouloir faire de la sociologie, sans en avoir les outils, je crois qu'on peut dire le besoin et le plaisir de se retrouver.
Absolument, absolument. Et puis, c'est étonnant d'ailleurs le nombre de discussions qu'on peut avoir différentes, parmi les gens qui viennent voir l'association en question. Voilà, alors sinon, la rentrée de septembre, c'est une rentrée associative, mais c'est aussi la rentrée des classes. Alors en Italie comme ailleurs, elle se fait en septembre. Et alors, les derniers mois avant l'été, en Italie, on a beaucoup parlé de la buona scuola, la bonne école. Alors qu'est-ce que c'est la bonne école? C'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que le gouvernement italien a essayé de réformer l'école par des propositions de façon plus large. Hein. Ce n'était pas limité seulement au collège. Et puis, cette réforme a été voulue par Matteo Renzi, le président du Conseil, et par sa ministre, Madame Giannini. Alors cette réforme, faut le dire, comme souvent dans l'éducation nationale, qu'elle soit italienne ou française d'ailleurs, suscite souvent beaucoup de réactions. Alors Renzi, pour arriver à convaincre, parce que c'est un homme de médias, Renzi, un homme de communication, il est régulièrement sur les réseaux sociaux et quand il est plus ou moins contredit, il va au-devant des personnes, il fait une séance au tableau carrément, hein. C'est un jeune, hein, un jeune président du Conseil. En fait, l'idée principale, tout au moins, c'est celle qui est développée par son gouvernement, c'est de dire, par cette réforme, on ne va pas revenir en détail, hein, parce qu'une réforme, ce sont des textes extrêmement longs, mais par cette réforme, on va investir plus en école, pour l'école, puisqu'on disait que le budget dédié à l'éducation nationale était un des plus faibles d'Europe. On va surtout titulariser les vacataires, parce qu'il y a beaucoup de vacataires en Italie non titulaires. Entre parenthèses, la femme de Renzi est une vacataire de l'école. Et puis, il voulait, par cette réforme, et lui et son gouvernement, mettre plus d'heures d'histoire, d'art, de musique, de sport et de langue. Et il voulait aussi y ajouter plus d'argent pour les enseignants. Ça, c'est la version officielle. Donc, alors évidemment, ça, comme ça, pris comme ça, peut être alléchant. Mais il y a eu de nombreuses grèves à la fin de l'année scolaire précédente. Il y a même eu une grève générale, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps au niveau de l'éducation nationale italienne. Les opposants, alors les opposants, ce sont les syndicats, les enseignants, les étudiants. Et lui reprochait deux choses, c'est le plus grand pouvoir qui était donné au directeur d'établissement et l'ouverture au financement privé. Bon, on connaît, hein, si on ouvre au privé, dans l'éducation nationale, on a toujours peur, etc., etc. On parlait, mais celle-là, elle a été abandonnée comme idée de rémunération au mérite. Mais cette rémunération avait été abandonnée. Pour un petit chiffre, cette réforme concerne 600 000 enseignants quand même. Mais je crois que l'un des problèmes principaux, en fait, c'était la mobilité. C'est-à-dire que pour devenir titulaire, il fallait accepter un poste dans une région qui n'était pas obligatoirement sa région d'origine. Alors la rentrée s'est faite, la loi a été adoptée au mois de mai, et le ministre de l'Éducation nationale italienne a été interrogé début septembre pour voir ce qu'il pensait de la rentrée. Bon, elle a l'air assez contente, elle dit que 38 000 postes ont été créés, qu'il y en aurait 55 000 autres, enfin créés. Titularisés, des précaires sont devenus titulaires, 55 000 autres avant le 15 novembre, et que le problème sur la mobilité n'en était pas réellement un, parce qu'elle dit qu'on exagère cette idée de mobilité hors région d'origine, parce que selon elle, elle ne concernerait que 7 000 enseignants. Alors, qui a tort, qui a raison dans les statistiques, on ne sait jamais par quel bout est pris le chiffre, et il faut gratter pour arriver à voir qui a raison. Alors, en tous les cas, il y a quand même eu, juste avant la rentrée, des mouvements toujours autour de cette mobilité, et notamment une grosse délégation d'Ipouille, et la plus importante a été une manifestation à Rome d'une grosse délégation d'enseignants sardes, qui sont venus, donc ils ont quitté leur île, mais quitté leur île pour la manifestation, parce que justement, dans cette manifestation, ils exprimaient le souhait de ne pas quitter leur île, et de continuer à enseigner chez eux, en disant que si on veut un développement de la Sardaigne et une vision nouvelle de la société, il fallait que les Sardes enseignent aux Sardes, ce qui n'empêchait pas d'autres de venir en Sardaigne, mais ils ne voulaient pas, eux, aller dans d'autres régions, puisqu'on dit d'ailleurs que beaucoup de mutations s'offeraient sur le nord de l'Italie. Donc ils sont partis par milliers des différentes provinces, que ce soit Cagliari, Nuoro, Sassari ou Oristano, avec leur valise. Alors pourquoi une valise? Ben évidemment, c'est le signe d'émigration, la valise, donc le signe de déplacement. Sur ces valises, il y avait le drapeau sarde avec les quatre têtes de mort. Et ils avaient leur drapeau, et puis ils étaient accompagnés du leader sarde du mouvement qui s'appelle Unidos, et qui est un député, Mauro Pilli, qui a appelé ça une nouvelle marche sur Rome. Et son espoir, c'était d'obtenir une dérogation pour la Sardaigne. Voilà, alors, autre actualité, bon, non, ce n'est devenu une actualité plus seulement italienne, c'est bien sûr l'immigration, les équipages de fortune qui arrivent ou n'arrivent pas, d'ailleurs, sur les côtes italiennes et sur l'île de Lampedusa, les gardes-côtes qui essayent tant bien que mal d'aller récupérer les survivants quand il y en a. Alors en Italie, comme ailleurs, les réactions sont diverses. Alors bon, là, il y a eu une accélération au niveau de l'Europe avec l'Allemagne et Mme Merkel. C'est très bien, d'ailleurs. Par contre, bon, on doit le dire, la vérité doit être quand même dite à ce sujet, c'est que pendant des années, avec le projet Mare Nostrum, les Italiens sont débrouillés tout seuls, quoi. Ils n'ont pas été vraiment aidés au niveau européen, les Grecs aussi, d'ailleurs.
Oui, oui.
Donc, ce côté-là, ce nouveau focus sur cette arrivée, eh bien, tant mieux. Mais n'oublions pas non plus le nombre d'années perdues à ce niveau-là. Et puis, il y a eu évidemment cette photo, puisque La République a eu un des journaux qui l'a publié, de ce jeune Kurde qui a été retrouvé mort sur une plage de Turquie, qui a sans doute sensibilisé encore plus le côté émotif de toutes les populations. Alors bien sûr, en Italie, et quand il y a eu dans certains endroits des arrivées massives, c'est comme toujours, il y a eu le bon côté des personnes qui accueillent. D'ailleurs, il y avait eu un papier de Salvatore Aloisi dans Le Monde du mois d'août qui expliquait ce qui existe de plus en plus en Italie, ce qu'on appelle le micro-accueil. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des familles qui se débrouillent à accueillir des gens plus que des structures. Et puis, il y a au contraire aussi une partie de la population qui est plutôt réticente. Alors, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Mediterranea de Jonas Carpignano, qui est lui-même de double origine, puisqu'il a un papa italien et une mère africaine. Et son film, très beau, évoque l'arrivée de Burkinabé en Calabre, qui n'est pas une région richissime non plus. Hein. Et il montre justement à la fois... c'est pas trop, entre guillemets, c'est pas trop pleurnichard comme film. C'est-à-dire qu'il montre à la fois les conditions difficiles d'arriver, la réticence, voire l'opposition de certains habitants, l'exploitation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot au quotidien de certaines entreprises, on va dire. Mais ils ne tombent pas dans le misérabilisme parce qu'ils montrent aussi l'autre côté, le côté plus positif. Et en disant que finalement, pour rester, pour avancer, il faut aussi se battre. Quoi. Voilà, alors ce film nous rappelle d'ailleurs un autre film d'il y a quelques années qui s'appelait Terra Ferma de Emanuele Crialese, qui était magnifique aussi comme film. On va faire une pause musicale, la première sur 97.1 de notre nouvelle année radio. Et on va écouter une chanson qui s'appelle « Sole Freddo », qui traite tout à fait de ce sujet et qu'on avait eu la chance d'entendre en direct, interprétée par Maura Susanna, cette chanteuse italienne qui était venue à l'occasion de notre troisième édition de Chansons de Femmes. Alors quand on fait venir, puisqu'on a toujours une chanteuse italienne et une chanteuse française, on travaille sur la traduction des chansons que l'on donne aux spectateurs ou que l'on projette, suivant le cas. Et là, ça a été pareil. On a fait traduire nos groupes de cours d'italien sous l'œil vigilant du professeur, voire beaucoup travaillé par le professeur, d'ailleurs. Dominique, comme tu as eu l'honneur de traduire cette chanson, je vais te laisser nous en citer au moins les premiers couplets.
Oui, qui sont magnifiques, je crois. Soleil froid, tu as fui la terre, tu as fui l'ignorance et la cruauté. Tu es parti une nuit, alors que brillait la lune sur la mer, de la vie des pêcheurs qui s'enfilaient, t'ont volé l'identité. Tu es parti pleine d'espoir à la recherche de liberté. Entre les bras de tant d'hommes, tu as perdu ta dignité, ta mémoire comme du sel et du sable. Sans but, tu ne reviendras pas sur ce balcon. Je crois qu'on va laisser la chanteuse s'exprimer.
Donc Maura Susanna, Sole Freddo.
Sei fuggito dalla tua terra, dall'ignoranza, dalla crudeltà. Sei partito in una notte mentre la luna parlava al mare. Della vita dei pescatori che senza reti t'hanno rubato l'identità. Sei partita con la speranza alla ricerca di libertà. Tra le braccia di tanti uomini hai perduto la dignità. Sale sabbia la tua memoria senza una meta su quel barcone. Non tornerà a amare la terra che non c'è. Il sole freddo è dentro te. Hai cercato nel vecchio libro una risposta ai tuoi perché, mentre l'acqua nel fiume scorre lenta al sentiero lacrime lasciano il posto ad il sorriso che il domani porterà. Come lame i nostri silenzi hanno tradito la verità, a lavare le nostre colpe una preghiera non basterà. Senza fili e senza sbarre la nostra voce più forte sarà libertà. Amara è la terra che non c'è, il sole freddo è dentro te. Amara è la terra che non c'è, il sole.
Maura Susanna sur une musique d'Andrea Dego, qui est un formidable pianiste. Alors, puisqu'on parle d'immigration, Nice a entrepris un gros travail de collectage depuis presque, on peut dire, quelques années maintenant, hein, qui s'est fait au fil du temps. Et ce travail, il faut bien en faire quelque chose. Et on a une commission qui commence à se réunir. Et trois orientations ont été prises, dont deux sans doute plus imminentes, et qui concernent un travail de restitution, alors soit sous forme de cahiers, de livres, enfin on verra, avec une partie des extraits, avec des photos sans doute, une partie qui est un travail un peu en même temps de création, qui sera sans doute sur un récit, on peut l'appeler comme ça, qui sera inspirant en tous les cas de ce collectage. Un travail peut-être de théâtre, là, mais sans doute sur une période beaucoup plus longue, parce que c'est une préparation très difficile, non pas que les autres le soient d'ailleurs facile. Et puis sur l'antenne de Couleur FM, mais je pense que tout le long de cette année, on vous passera des extraits de ces interviews qui sont quelquefois poignantes, quelquefois très drôles, quelquefois poignantes, et qui illustrent bien, je pense, l'immigration dans notre nord Isère. Alors, mais on ne va pas attendre ces créations-là ou ces transcriptions-là pour parler d'immigration ici, dans notre nord de l'Isère. Et je vous signale une manifestation qui va se dérouler, le samedi 3 octobre à la librairie Majolière. Majolière Bourgoin-Jallieu, hein, puisqu'il y a Majolière Lille d'Abou et Majolière Bourgoin-Jallieu. Alors, la journée va se dérouler de la façon suivante. Elle va se dérouler le matin par une table ronde que tu auras l'honneur de conduire, Dominique, qui sera de 11h à 12h30 et qui va réunir deux éditeurs. On travaille beaucoup sur le franco-italien. Un éditeur grenoblois qui est Le Monde à l'envers et un éditeur piémontais, Tabor Edizioni, dont on peut dire, je crois, que tous deux croient beaucoup à l'ancrage
territorial.
Tu peux nous dire deux mots peut-être sur ces éditeurs?
Apparemment, ce sont des éditeurs qui croient tellement à l'ancrage régional qu'ils sont profondément engagés dans des luttes locales. Il y a évidemment l'opposition au train à grande vitesse, au TAV. Il y a le problème de l'installation d'un parc de loisirs dans les plateaux du Chambaran. À telle enseigne que quand on téléphone par exemple à l'éditeur italien, on a l'impression qu'il est plus souvent sur le terrain que dans sa librairie à éditer des bouquins. Et je pense que c'est vrai, dit Alain. Oui, tout à fait.
On verra ce jour-là à la table ronde, hein, mais qui ont visiblement, ils se rejoignent sur beaucoup de
tout
points.
Tout à fait.
Alors après, il y aura une pause et on va dire.
Un peu de musique.
Un peu de musique, plus ou moins en lien avec l'immigration, quand même.
Hein, musique italienne,
on aura
peut-être
un côté
africaine.
Et tout cela pour conduire aussi à l'après-midi. L'après-midi, à partir de 15h, on aura la présence de Colline Picot, qui est une auteure et dessinatrice, illustratrice plutôt grenobloise, qui met en image des récits de vie. Hein,
voilà, dire, tout à fait.
Et qui avait fait un premier album, un premier ouvrage qui s'appelait Disgrazia, et qui évoque l'histoire du quartier Saint-Bruno à Grenoble à travers l'arrivée de sa famille sicilienne. Et son récit retrace cette immigration, les difficultés liées à l'immigration, pourquoi ils sont venus, comment ils ont vécu leur arrivée, etc. Et puis, elle a fait une deuxième BD qui s'appelle « De l'autre côté », qui, elle, réunit là, non pas des témoignages d'Italiens, mais des témoignages de Maghrébins, Tunisiens, Marocains, Algériens, qui sont venus, eux aussi, s'installer à Grenoble, et qui ont en commun l'amertume de l'exil et puis le rêve d'une vie meilleure. Cette rencontre sera également publique. Toutes les personnes présentes, et on espère qu'il y en aura beaucoup, pourront poser des questions, discuter, voir. Il y aura une période des dédicaces, je pense.
Bien sûr.
Et puis je crois que les planches...
Il y aura l'exposition en même temps
du 29
de 12 planches.
De 12 planches, donc, à partir du 29 septembre.
Oui, qui vont rester une semaine à la librairie.
Voilà. Et qui peuvent être consultées par toutes les personnes. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont dans les locaux de la librairie Majolière, dont je dois dire qu'il est un de nos plus fidèles partenaires avec qui il est bien agréable de travailler. Il y a des choses qu'il faut dire. Voilà. Alors sinon, au niveau de l'immigration, toujours, eh bien, on va passer encore un champ d'immigration, puisque on parlait de l'Italie tout à l'heure en début d'émission et de l'immigration qui se fait de l'extérieur vers l'Italie. Mais l'Italie a été un gros pays d'émigration, sans doute le plus gros pays d'Europe au niveau tout au moins du nombre de personnes qui sont parties sur différents continents. Et cela a donné l'idée, il y a quelques années, à Gian Maria Testa de faire une chanson qu'il a tout simplement appelée Rital. Et on s'appelait Rital, c'était le nom qui était donné en France aux Italiens. Et son texte commence ainsi. « Pourtant, nous le savions, nous aussi, l'odeur des soutes, la mer du départ, nous le savions nous aussi, une langue à désapprendre, une autre à apprendre vite avant la bicyclette, nous le savions nous aussi, la brume de souffle sur les vitrines, la tiédeur du pain et la honte d'un refus, nous le savions nous aussi, ce regard muet. » C'est un texte là aussi magnifique et chanté par Gian Maria Testa.
Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. È la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane è l'onta di un rifiuto. Lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa è un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche noi, questo guardare muto.
Le savions-nous aussi, ce regard muet? Ce sont les dernières phrases de la chanson. Les textes de Gian Maria Testa, qui parle bien français, Gian Maria Testa, il parle vraiment même très bien, mais il chante toujours dans sa langue originale. Et les textes sont souvent traduits par Danielle Valin, qui est aussi la traductrice de De Eri De Lucca. Alors, puisqu'on a parlé en début d'émission de cinéma, on va continuer. Alors, vous savez que le cinéma, qu'Annecy a un festival du cinéma italien qui existe depuis longtemps, il existe depuis 1983, et c'est le plus important en France avec Villerue en Lorraine. Quelques chiffres, 60 films de projetés, 115 séances, 5 salles dédiées à ce festival sur Annecy et la périphérie, et puis des films qui sont projetés après sur une sorte de tour, mais après le festival lui-même. Et cette année, il débute le 23 septembre, il se finit le 29 septembre. Bon, alors je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui est programmé, parce que 60 films, c'est beaucoup. Et je vous conseille tout simplement d'aller sur le site de ce cinéma, de ce festival du cinéma italien, qui est www.annecycinema, tout en attaché. D'ailleurs, annecycinemaitalien, tout en attaché.com, je répète, www.annecycinemaitalien.com. Vous pouvez aussi téléphoner à l'organisation au 04 50 33 44 00. Alors cette année, il y aura notamment un hommage à Philippe Noiret, il y aura des avant-premières notamment de Moretti, et puis beaucoup de choses, hein, comme d'habitude. Mais moi, ce que j'ai souhaité évoquer aujourd'hui, c'est deux temps que je qualifierais d'originaux. Tout d'abord, il y a le prix Sergio Leone. Alors, le prix Sergio Leone, il a été créé, Sergio Leone, qui était un réalisateur bien connu, il a été créé pour faire connaître justement un réalisateur italien qui a fait des choses importantes, mais dont on n'a quasi jamais vu les films en France ou jamais entendu parler. Ce qui est une démarche originale. Et cette année, le Sergio Leone, ce prix Sergio Leone, va permettre de découvrir Gianluca Maria Tavarelli, qui a fait beaucoup de films, et on va pouvoir en voir quelques-uns. Una storia sbagliata, Non prendere impegni stasera, Liberi un amore e Portami via. Voilà les films qui seront projetés. Donc Gianluca Maria Tavarelli, personnellement j'ai jamais vu de film de Tavarelli en France, Dominique. Non. Mais donc c'est bien, c'est une démarche intéressante. L'autre démarche intéressante de ce festival du cinéma italien, c'est de donner chaque année, de mettre un éclairage particulier sur une région qui a été traité ou qui a été le cadre de nombreux films du cinéma italien. Et cette année, la région dont sur lequel Annecy met un focus, c'est la Basilicata, qui est une région, c'est vrai, dont on parle très peu. Hein, c'est l'ex-Lucanie jusqu'en 1947, je crois. Et donc, pour situer, c'est une région du sud de l'Italie, entre Pouille, Calabre et Campanie. Elle a un peu moins de 600 000 habitants. Son chef-lieu, c'est Potenza. Elle a deux provinces, Potenza et Matera, qui est connue pour ses troglodytes, Matera. Alors, c'est une région rude, montagneuse, qui a la plus grande zone désertique, d'ailleurs, de l'Europe de l'Ouest, si mes souvenirs sont exacts. Elle essaye de se développer, tant bien que mal, hein, de par sa position et de par la rudesse aussi de la terre. Mais elle a inspiré énormément de grands réalisateurs du cinéma italien, puisque Germile, Frattaviani, Pasolini, entre autres, ont tourné des films dans cette région et avec des sujets qui portent sur cette région. Alors, on cite ceux qui vont être projetés à Annecy. Il y aura La tanière des brigands, Il brigante di Tacca del Lupo de Pietro Germi, il y aura Sassy Wood de Andrisani, il y aura Noi e la Giulia de Eduardo Leo, il y aura aussi Le sourcier, Il rabdomante de Fabrizio Cattani, il y aura L'évangile selon Saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, bon, c'est un film qui est très connu, celui-là. Il y a L'été où j'ai grandi, qui en italien porte le titre de Io non ho paura, de Gabriele Salvatore. Et il y a Le Christ s'est arrêté à Eboli, Cristo si è fermato ad Eboli. Alors, c'est un film qui est aussi en même temps un hommage à Francesco Rosi. Donc en 1935, l'histoire, hein, Carlo Levi, un médecin de Turin condamné par le gouvernement fasciste à 3 ans de résidence surveillée, il arrive donc à Eboli, qui était son lieu d'assignation, et qui est un village donc à l'époque de Lucanie, puisqu'on l'appelait comme ça, donc sur une colline désolée. Et alors, son voyage était long, éprouvant, et le maire du village, qui répondait au nom de Don Luigino, l'avertit qu'il lui est interdit de communiquer avec les autres condamnés, mais rapidement, les villageois, ben, tout se sait, ont appris que Carlo était médecin. Et puis, donc, les gens se bousculent pour consulter, pour aller en consultation. Mais, bien sûr, la loi lui interdit d'exercer son métier. Donc, c'est un très beau film. Mais le bouquin est un beau bouquin. Hein, le bouquin de Cristo si è fermato ad Eboli. Autre film de Francesco Rosi, c'est C'era una volta, qui en français s'appelle La Belle et le Cavalier.
Sophia Loren.
Exactement. Et Omar Sharif, qui est décédé depuis peu. George Wilson aussi font partie de cette distribution. Il y aura aussi Allons enfants des frères Taviani, qui est un beau film aussi. Hein.
Superbe bande musicale, s'il me souvient bien.
Absolument, absolument. Là, il y a Mastroianni, Mipsi Farnia, Laura Betti, enfin, donc c'était à l'époque de l'Italie de 1816. Et autre film de Francesco Rosi, qui s'appelle Les Trois Frères, les Tre Fratelli, où on aura, ce sera l'occasion là aussi de rendre un hommage à Francesco Rosi et à Philippe Noiret, puisqu'il faisait partie avec Michele Placido, et Vittorio Mezzogiorno et Charles Vanel de la distribution. Voilà, donc un œil sur la Basilicata, ce qui est intéressant. Alors, la Basilicata est importante dans la généalogie d'un chanteur français un petit peu connu, qui s'appelait Georges Brassens.
Ah oui.
Oui, puisque sa maman était italienne, comme beaucoup de chanteurs français d'ailleurs. Et elle était de la Basilicata, elle s'appelait Elvira d'Agrosa. Et bon, on va rendre un hommage à cette région par Brassens chanté en italien, ce qui me paraît logique. Et on va entendre un groupe de jeunes garçons qui sont Andrea Belli et Franco Pietro Paoli, quelquefois il y a aussi avec eux sur certains morceaux Alessandro Belli, et ils ont traduit l'italien, mais ils l'ont fait de façon assez originale, et maintenant ils commencent à tourner en France. Ils sont venus pour la première fois à Vaison-la-Romaine au festival Brassens de Vaison-la-Romaine, qui cherchait des interprètes étrangers chantant Brassens, n'en connaissant pas. Si, il y en a quelques-uns comme Nanny Svamp, etc. Mais il voulait inviter des groupes plus récents, on va dire. Alors, ils sont allés sur Internet, ils ont fait des recherches et tout. Bon, c'était du copier-coller, on va dire. Et ces deux, les deux frères, Pietro Paoli, l'autre frère venu après, Andrea Belli, chantaient dans leur chambre universitaire à Rome. Ils avaient mis leurs vidéos sur YouTube et les organisateurs ont trouvé ça formidable. Ils les ont appelés en leur disant, mais on vous invite au festival de Vaison-la-Romaine, mais vous venez comme ça. Ils ont cru une blague, ils ont vraiment cru une blague, et puis ils sont venus quand même. Et depuis, ils sont invités dans plusieurs festivals en France. Ils sont même venus à Charavine pour le festival Brassens. Donc, on va passer la chanson choisie par Dominique, qui est Il Ragazzaccio. Il Ragazzaccio, qui est Je suis un voyou en français.
Si fa largo nel mio cuore una vecchia storia, il fantasma d'un amore che mi resterà. Ai gran cavoli del tempo e della memoria, il ricordo dura ancora e mai se ne andrà. Ho perso la mia tramontana d'incontrar Maria, dea con un gilet di lana che era una poesia. Se anche un fiore per la strada potesse camminare, e a Maria che son sicuro mi metterei a pensare. Le ho detto tu della Madonna sei il ritratto intero, il buon Dio me la perdoni, era quasi vero. Che me la perdoni o no, io che me ne faccio, son già bello e condannato, sono un ragazzaccio. La graziosa andava a messa per pregare il Signore, io ho morso le sue labbra per conoscerne il sapore. Lei m'ha detto a viso scuro, Dio mio che fai qui? Poi me l'ha lasciato fare, le ragazze son così. Le ho detto su per la Madonna, resta qui con me, il buon Dio me la perdoni, ma ciascun per sé. Che me la perdoni o no, io che me ne faccio, son già bello e condannato, sono un ragazzaccio. Proprio una ragazza bene, Dio, fuori di me, ho infilato il mio nasone nel suo décolleté. Lei m'ha detto già furiosa, Dio mio, che fai qui? Poi me l'ha lasciato fare, le ragazze son così. Poi le ho tolto la sottana e c'era il paradiso, il buon Dio me la perdoni, ma non l'ho diviso. Che me la perdoni o no, io che me ne faccio, son già bello e condannato, sono un ragazzaccio. Ho perso la mia tramontana nel lasciar Maria, che con un triste bigotto se n'è andata via. Oggi avrà sicuramente un mucchio di bambini che piangono insistentemente per poppar dai seni. Ma io ho assaggiato la mammina molto tempo addietro, e che Dio me la perdoni, ero innamorato. Che me la perdoni o no, io che me ne faccio, son già bello e condannato, sono un ragazzaccio.
Alors, vous êtes bien sur Couleur FM 97.1, et puis comme Couleur FM a un technicien qui connaît bien la chanson, il vient de me faire remarquer que le titre n'est pas Il Ragazzaccio, mais Sono un Ragazzaccio.
Ce n'est pas la même chose.
Et donc, bravo au technicien qui suit. Évidemment, j'avais fait exprès pour qu'il puisse voir, pour voir s'il suivait.
Bien sûr.
Voilà. Bien, on continue dans les choses programmées dans notre région au niveau de la culture italienne. Alors, à Saint-Étienne, ça a débuté le 13 juin, mais jusqu'au 3 janvier 2016, au Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, plus précisément dans la salle centrale du musée, sont exposées des œuvres qui datent de 1967 à nos jours pour une rétrospective liée à l'arte povera. Vous savez, l'arte povera, c'est cet art qui s'attache plus au processus qu'à l'objet fini, avec beaucoup de références à la nature. Et donc, c'est une rétrospective Giovanni Anselmo, qui réalise des sculptures à partir de différents matériaux naturels, le bois, le fer, la pierre. Et Saint-Étienne lui offre donc pratiquement 6 mois de cette salle centrale du musée, ce qui, ma foi, est bien. Donc je vous conseille d'y aller, hein, une rétrospective Giovanni Anselmo. Autre grand événement, mais là, plus près de chez nous, un événement qui va se dérouler plus précisément à la salle Balavoine de Villefontaine au mois de novembre, et qui sera précédé 2 jours avant d'un autre événement, on va en parler après. Donc le 21 novembre à 20h30 à la salle Balavoine de Villefontaine, bon, INIS organise une représentation théâtrale qui est une création de la compagnie Ma voisine s'appelle Cassandre de Marseille, qui a adapté au théâtre, qui a même créé, on peut dire, cette pièce à partir de la traduction française du bouquin de Emilio Lussu qui s'appelle Un anno sull'altipiano. Et c'est un spectacle, vous savez qu'il y a beaucoup de spectacles qui traitent de la guerre 14-18, qui en Italie a commencé en 1915 avec le conflit avec l'Autriche-Hongrie. Et donc il y a beaucoup de spectacles et certains ont essayé d'obtenir le label Centenaire, qui est un label qui permet de distinguer, disons, les projets les plus innovants. Et ils ont obtenu ce label, ce qui veut dire que c'est quand même un spectacle de grande qualité. Et donc, pour évoquer le rôle de l'Italie dans ce conflit, on a pensé, nous à Nice, qu'il fallait vous présenter ce spectacle à la région. Ça sera le inédit en Rhône-Alpes. Hein. Et donc, c'est intéressant encore à plus d'aller le voir. Alors, en 2 mots, Emilio Lussu est un écrivain sarde qui, en fait, était officier de la Brigata Sassari, qui était un fleuron de l'armée italienne, dont la plupart étaient d'ailleurs, les composants étaient sardes. Et il avait été, en 1916, il avait été envoyé sur le plateau d'Asiago en Vénétie, lieu donc front de guerre entre Italie et Autriche-Hongrie. Et il prenait des notes, il écrivait, mais sur des faits de guerre, mais pas seulement sur des faits de guerre, sur les rapports hiérarchiques, les rapports avec l'ennemi, les rapports entre gens qui venaient de régions différentes, etc. Et il a donc été convaincu par des amis, mais 20 ans plus tard, d'écrire cet ouvrage, Un anno sull'altipiano. Et ce témoignage a donné un bouquin, ma foi, très intéressant, qui a été traduit en français et qui a été traduit sous le titre « Les hommes contre », dont on parlera après. Et c'est donc à partir de cette traduction que Nanouk Broch, la directrice de la compagnie Ma voisine s'appelle Cassandre, a décidé de créer cette adaptation qui est jouée par 3 comédiennes, justement, qui est jouée par des femmes et qui s'appuie sur 3 thèmes principaux. La jeunesse éternelle, victime des guerres, bien sûr, l'éternelle victime des guerres, la violence des combats et les rapports de classe. Voilà. La location est déjà ouverte. Vous pouvez téléphoner à Inis ou envoyer au 07 86 62 29 77. Ou nous envoyer un mail à inis@alisadsl.fr. L'entrée est à 15 €, et évidemment, pour les lycéens, l'entrée est gratuite. Voilà. Ce qui était intéressant, on a dit, c'est de partir d'un bouquin français, de traduction française pour l'adapter au théâtre. Mais avant cette traduction française, enfin cette adaptation de la traduction française, il y a une traduction de l'italien au français qui a été réalisée, et notamment par Emmanuel Genevoix. Alors je sais que tu as travaillé là-dessus, Dominique, tu peux nous expliquer ce qui va se passer le jeudi précédent le spectacle, c'est-à-dire le jeudi 19 novembre, chez Majolir, la librairie Majolir.
Oui, ce jeudi-là, donc, on a trouvé qu'il serait intéressant de faire débattre la directrice du théâtre, qui est passée de la langue française traduite de l'italien, qui est parce qu'il a adapté cette langue française en langage théâtral. Mais auparavant, on avait envie également d'avoir la voix de la traductrice pour savoir comment elle avait travaillé, pour connaître un peu mieux les difficultés de la traduction, parce que la traduction, ça n'a pas l'air, même si dans sa langue maternelle, ça apparaît évident. Issu d'une autre langue, c'est en fait une performance que d'adapter, je pense, hein, une grosse performance qui parfois pose d'énormes problèmes parce que telle ou telle langue, quelle qu'elle soit, a ses spécificités qu'il est difficile de transposer dans une langue autre. Et on avait trouvé intéressant de confronter ces deux types de traductions. D'abord, on part d'un texte italien qui n'est pas n'importe quel texte, qui est un superbe texte. Comment est-ce qu'on arrive au français? Et puis à partir de ce français, comment est-ce que la traduction, précisément, donne envie à une directrice de théâtre, eh bien, d'adapter ça à un langage qui soit, lui, théâtral, donc forcément différent du récit de Luce.
On peut presque dire qu'il y a une double création.
Il y a une double création. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas faux que de le dire.
Et Nanouk Broche a été enchanté par ce projet. Oui. Il faut dire que les réunions préparatoires entre tous ont été formidables.
Cordiales.
Facile. Oui. Et Nanouk Broche, d'ailleurs, résume tout ça en disant « Faire du théâtre avec un texte, c'est chercher aussi à transmettre au spectateur quelque chose de l'expérience du lecteur. »
Et bien sûr.
Voilà, alors puisqu'on parlait de création, on parlait tout à l'heure de Maura Susanna et de notre troisième édition de Chansons de Femmes. À la première édition, on avait invité une jeune chanteuse italienne, Erika Boschiero, à laquelle on croit beaucoup, nous, parce qu'on trouve qu'elle a beaucoup de talent. Mais il se trouve que depuis 3 ans, elle a fait beaucoup de chemin. Et elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Caravan Bolero et qui est formidable et qui a des orchestrations magnifiques. En plus, elle a réuni autour d'elle, elle est jeune, hein, elle a une trentaine d'années. Elle écrit ses propres textes, elle joue elle-même de la guitare et elle a des musiciens... elle écrit même ses musiques, hein, mais sinon elle est accompagnée par des musiciens de haut vol, notamment Edu Ebling. Et là, sur cet album, elle a réuni beaucoup de partenaires, disons, de la chanson de la musique italienne. Et elle a même eu, à la sortie du disque, une dédicace d'Ornella Vanoni, qui est une grande interprète italienne et qui a encensé cet album. Et donc, on va l'entendre dans un premier titre qui s'appelle « Souvenir ». Elle a gardé un titre français parce qu'on l'entend aussi, « Souvenir » en italien. C'est un des mots qui rentre aussi dans la langue italienne. Elle commence ainsi, « Je t'apporterai un souvenir de mon prochain voyage, j'irai dans le désert, dans chacun de mes mirages, je tirerai un fil entre paume et vent, mon navire sera le cerf-volant, je t'apporterai un souvenir au goût de sel et d'eau, je t'apporterai un souvenir ravi à l'orage, je t'apporterai un souvenir et une bouteille vide, une petite araignée accrochée à cette nouvelle note. » Erika Boschiero.
Ti porto un souvenir dal prossimo mio viaggio, che sarà nel deserto in ogni mio miraggio, e ti darò una corda fra la palma e il vento, sarà l'aquilone, il mio bastimento. Souvenir che sa di acqua e sale, ti porto un souvenir preso dal temporale, ti porto un souvenir e una bottiglia vuota ed un ragnetto appeso a questa nuova nota. La terra dei poeti sa di sabbia e vento hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole. Ti porto un souvenir dal ventre del pianeta, un sasso, una conchiglia, un'ape, una moneta, un cristallo d'argento, chiederò al ghiacciaio ed un secondo inciso dal loro orologiaio. Ti porterò una mappa che non ha confini e delle indicazioni su dei bigliettini. Non serviranno strade o rotte da capire, solo gli occhi chiusi quando è l'imbrunire. La terra dei poeti sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole.
Bravo.
Pas mal, hein?
Oui. Ah oui.
L'été, Dominique, est une saison où on lit beaucoup plus.
En principe,
on essaye,
oui,
mais
oui.
On lit toute l'année finalement.
On lit toute l'année, mais l'été, effectivement, nous donne plus de disponibilité et de temps.
Alors, je te sais, grand lecteur, est-ce que tu as lu des livres italiens cet été ?
J'ai lu un roman de. On en avait déjà parlé très brièvement de Silvia Avallone.
On l'avait cité, oui.
On l'avait cité. Alors, Silvia Avallone, elle fait partie de cette très jeune génération d'écrivaines italiennes qui vient de produire un deuxième roman. Et ce roman, je ne suis pas le seul à le dire et à le penser, est un chef-d'œuvre absolu, un énorme bouquin qui doit faire, qui fait plus de 400 pages et qui raconte l'histoire de deux adolescents. L'une, Marina, qui rêve de devenir une star mondiale. Et puis, eh bien, son... un amoureux, entre guillemets, parce que tout le roman, justement, le récit de cette relation souvent tumultueuse, André a, lui, il a un rêve. Il a une grosse difficulté avec ses parents, mais il a un rêve, c'est de monter dans la montagne et de rejoindre la ferme que cultivait son grand-père, ce qui est un rêve jugé complètement stupide par ses parents. Alors, va-t-il réussir? Va-t-il pas réussir? Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est d'abord l'histoire est très belle. Il faut absolument lire ça, on ne va pas parler de la fin. Et puis, tout ça sur contexte de deux choses, une crise industrielle énorme, les fabriques de laine notamment. On est dans la province de Biel, là, au Piémont, les fabriques de laine qui sont devenues de vieilles carcasses, désossées, etc., pleines de rouille. Et puis, quand même, ils ne sont pas encore nombreux, mais la volonté d'un certain nombre de jeunes, notamment des jeunes étudiants, de revenir au pays. Alors c'est très, très très intéressant de voir cette confrontation de deux mondes, le monde ancien où les gens n'ont pas trop de travail, s'occupent comme ils peuvent dans des bars en racontant des histoires quelconques, et puis ces jeunes qui ont une volonté vraiment chevillée au cœur de faire revivre le pays.
Et je te coupe, excuse-moi, oui. Tout à l'heure je parlais du papier de Salvatore Aloisi sur dans Le Monde. Et du micro-accueil, c'est précisément dans ces régions dont
ah
tu
oui.
parlais la majorité des micro-accueils.
C'est pas trop surprenant. Mmh. Et alors, tout l'art d'Avallone, c'est d'abord, elle sait raconter une histoire, vraiment une très belle histoire sur 400 pages, elle tient la route, elle a du souffle. Et puis elle a un art supplémentaire, selon moi, c'est que on dirait qu'elle a une formation de géographe. Elle nous raconte les paysages du Piémont, les montagnes, le soleil couchant avec un talent absolument extraordinaire. C'est vraiment un grand, grand bouquin. Et Ibrahim Majoli, là, le groupe adulte de Passeurs de Monde, on en a tous adoré ce grand livre. Marina Bellezza, c'est, je crois, Dans l'édition française. Moi, je l'ai lu en italien. C'est dans l'édition française, je crois, Liana Levi. Mais ça mérite vérification. Je ne suis pas sûr de moi. Il a été traduit en 2015.
Comme on trouve aussi le livre de Lousse dont on parlait
bien
tout
sûr,
à l'heure.
Bien sûr.
Merci, Dominique. Et effectivement, Sylvia Vallone est quelqu'un qui mérite d'être lu. C'est évident.
C'est sûr.
Eh bien, je crois qu'on va finir cette émission en chanson. Vous êtes d'accord pour un nouveau titre d'Erika Bosquer?
Oh, absolument.
Donc on va l'écouter dans un titre qui est aussi le titre de l'album, Caran Bolero, qui en fait raconte l'arrivée d'un cirque dans un village avec tous les enfants et pas que les enfants qui s'émerveillent, et avec la participation aux côtés d'Erika de Enrico Farnedi au ukulélé. Voilà, donc on va se quitter sur ce morceau en vous souhaitant de beaux jours d'automne et en vous retrouvant bien sûr sur Couleur FM pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.
Forse has smesso di pensare.